magazine que vous allez suivre est une rediffusion.
C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Bras.
Bonjour. Anéantissement biologique des écosystèmes, migration de populations pour des raisons climatiques, pénurie de pétrole. Notre civilisation risque de s'effondrer prochainement. Comment, pourquoi peut-on s'y préparer? Comme ça ne sert à rien de faire l'autruche, Clément Mauffort explore toutes les facettes de ce chaos prévisible à travers une web-série documentaire. C'est passionnant et il sera notre invité dans un instant.
C'est pas du vent sur RFI.
Moi, je me sens un homme quand je fais mon propre jardin, que je mange mes propres légumes. Je suis indépendant, autonome, libre. Je me sens homme. Je me sens pas un enfant qui est encore dépendant d'un système qui, de toute façon, va s'écrouler.
Se sentir homme en devenant autonome, de plus en plus de personnes, jeunes ou moins jeunes, décident de s'affranchir du mode de vie occidental. Alors ça veut dire quoi? Répondre à cette question, c'est justement le but de votre travail en ce moment. Muriel Barra, bonjour.
Bonjour Cécile.
Alors ça fait plus de 15 ans que vous produisez des documentaires sur les changements de mentalité hein, au sens large. Et là vous débutez une nouvelle série qui s'appelle Un autre chemin, dont le premier épisode de 50 minutes a été diffusé mercredi dernier sur Choya TV. Alors quelle est votre ambition? Qu'est-ce que vous cherchez à travers cette série?
Alors en fait, nous on a une ligne éditoriale qui met en avant les beautés de la nature, mais aussi leur fragilité. Moi ce que j'ai voulu montrer en allant rencontrer des gens comme ça, c'est de montrer de quelle manière l'homme peut se reconnecter à la nature en fait. Donc j'ai voulu aller rencontrer des hommes et des femmes qui vivent simplement en se reconnectant à ce que la nature nous donne et nous offre tous les jours. C'est l'eau, c'est le soleil, c'est l'énergie, c'est la terre, c'est... Voilà. Donc j'ai voulu aller rencontrer ces gens-là parce qu'ils nous donnent des... C'est pas des leçons de vie parce qu'ils n'ont pas du tout cette ambition-là, mais ils nous livrent en tous les cas des témoignages qui nous ramènent à ce qu'on est et ce de quoi on s'est beaucoup trop éloigné à mon sens.
C'est tourné de façon très simple, hein. Vous vous invitez toute seule chez les gens.
Oui, alors ça part d'une envie personnelle qui était... l'idée de se dire, voilà, ces gens-là vivent en autonomie, ils ont besoin de personne. Donc je vais faire comme eux, je vais partir moi aussi toute seule avec mes caméras, j'ai besoin de personne et l'équipe de tournage va être réduite à une seule personne.
Qu'est-ce que ça veut dire être autonome?
Alors en fait, il ne faut pas confondre autonomie et autarcie déjà. Voilà, ce ne sont pas des gens qui vivent loin de la société, ce sont des gens qui se sont reconnectés à ce que la nature nous offre et qui du coup ont développé une autonomie à différents niveaux, que ce soit l'alimentation, que ce soit la santé, que ce soit l'habitat, le fait de créer de l'énergie, de récupérer de l'eau. Ce sont des gens qui partent du principe qu'aujourd'hui, l'administration, l'État, les multinationales, on nous a un petit peu éloignés de tout ça. Et on a mis entre la nature et l'homme, finalement, ces administrations, ces grands groupes qui, quelque part, récupèrent leur argent à partir de tous ces éléments de la nature.
Il y a beaucoup de personnes dans cette démarche, c'est peut-être difficile à savoir.
Alors, je pourrais pas répondre à cette question-là. Moi, je pense qu'il y en a de plus en plus. Alors forcément, en cherchant les personnages que je vais rencontrer, je découvre des réseaux, on en parle, on me parle de plein de personnes. Alors, que ce soit des personnes isolées, comme celles qu'on a pu voir là, avec Thibaut, que ce soit des personnes qui se regroupent en un mot ou plus largement en village, je sais qu'il y a beaucoup d'expériences qui se tentent à des niveaux différents d'autonomie, parce que vous en avez certains qui sont vraiment... très autonome à tous les niveaux, d'autres qui gardent un lien quand même, enfin que ce soit l'énergie ou l'eau, mais il y a vraiment différentes aventures qui se tentent, parce que aussi, je pense qu'on est tous de plus en plus conscients qu'on est vraiment en train d'arriver au bout d'un système, on en voit vraiment ses limites tous les jours, donc il y a un autre système à inventer. Et ces gens-là ne sont pas là pour dire, voilà, c'est vraiment ce système-là qu'il faut mettre en place. Mais moi, ce qui me plaît, c'est qu'en tous les cas, ils nous montrent un autre chemin possible, une autre manière de vivre, de concevoir la vie, tout simplement. Et qu'on parle d'alimentation comme d'éducation, finalement, il y a plusieurs manières de se nourrir, plusieurs manières d'éduquer ses enfants. Et c'est cette pluralité de choix, en fait, qui, moi, me plaît.
Pour votre premier épisode, vous êtes allé voir Thibaut, on en a parlé, qui habite une maison incroyable, hein, perchée dans les montagnes. Je vous propose de l'écouter, nous expliquer sa démarche.
Tu t'es installé ici, t'avais quel âge ?
j'avais quel âge ? J'avais donc 25 ans.
25 ans ? Comment on prend la décision de venir s'installer là et pour y faire quoi et...
Écoute, j'ai eu un vécu qui fait que j'ai eu des clics là, même avant. À partir de 15 ans, j'ai commencé vraiment à me poser beaucoup, un tas de questions. En fait, de me demander comment faire pour essayer de ne pas avoir un impact négatif sur la nature et essayer que la nature ne se fasse pas trop maltraiter. Et du coup, ben, c'est ce que j'essaye de faire à mon propre échelle. Et chacun est sur son chemin, et ben, moi, sur ce chemin-là.
Ta démarche à toi, c'est avant de changer le monde, j'essaye de me changer moi et d'être cohérent, c'est ça ?
Ben exactement. La cohérence, c'est d'abord en soi qu'on la trouve. Et c'est avec nos achats qu'on fait qu'on cautionne ceci ou cela. Ou c'est avec notre manière de nous comporter qu'on cautionne ceci ou cela, tel ou tel comportement, telle norme sociale, etc. etc. C'est, nous sommes la clé et nous sommes puissants. À terme, je pense arriver à être beaucoup plus autonome et à être en réseau avec d'autres personnes qui veulent ça, et indépendant finalement de l'État ou des lobbies, des supermarchés, etc.
Muriel Barra, à travers le discours de Thibault, on comprend qu'il y a une véritable réflexion derrière cette démarche de vivre en autonomie. Ça ne se fait pas sur un coup de tête, c'est un projet qui se mûrit.
Thibault, je trouvais très touchant pour ça. D'ailleurs, il le dit bien dans le film. Ça, pendant l'adolescence, enfin, son passage à l'école, et le regard qu'il portait à la société, sur la société à cet âge-là, il a tout simplement fait le choix de ne pas participer à ce système. Donc il en a inventé un autre. Et il est vraiment très authentique dans sa démarche. Il est très touchant.
C'est ce que vous appelez dans vos commentaires un égoïsme vertueux.
Bah oui, c'est ça en fait, parce qu'il pense d'abord à lui en fait. Et c'est très juste, je suis assez d'accord avec cette théorie qu'à partir du moment où on se fait du bien à soi, on est tout à fait capable de faire du bien aux autres. Ça sert à rien de se dire qu'il faut vivre dans le sacrifice pour faire du bien aux autres. Donc il se fait du bien à lui, son bonheur à lui, c'était de vivre dans la nature, au contact de la montagne et des éléments. Et pour moi, il est épanoui, il est resplendissant. Et tous les gens qui passent chez lui, bah, ils captent cette énergie-là.
Rien n'est superflu, tout devient essentiel. Ça donne des scènes assez drôles, hein, parfois, où vous découvrez, par exemple, les produits d'hygiène à base d'argile, de vinaigre, de bicarbonate de soude pour faire le dentifrice, le savon, et vous plongez votre brosse à dents en disant « qu'est-ce que ça va donner ?»
Ben oui, mais parce qu'en fait, on ne s'en rend pas compte. En fait, nous, tous les jours, c'est facile. On ouvre le robinet, on se lave les dents, l'eau, on ne sait pas où elle va. On met nos déchets dans la poubelle, on ne sait pas où ça va. Lui, la source, son eau, il voit d'où elle vient, il voit où elle va, ses légumes, il sait avec quelle eau elle pousse. Donc tout ça, ça a de la valeur pour lui. Chose que nous n'attribuons malheureusement plus suffisamment à cette eau qui vient du robinet, à la nourriture qui est dans notre assiette. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et il m'avait dit au début, quand je suis venue, attention, chez moi, c'est strictement interdit, il faut zéro produit chimique. Donc, bon, heureusement, j'avais à peu près de quoi amener chez moi directement, mais il m'a appris à faire tous ces produits-là. Et c'est d'autant plus réjouissant, en fait, de les faire soi-même. Donc, j'ai beaucoup apprécié la démarche et c'est tellement cohérent. Ce qui m'a touchée chez Thibault comme chez les autres, c'est vraiment cette cohérence-là. À partir du moment où on réfléchit, finalement, d'où vient cette eau, d'où viennent nos légumes, ce qu'on mange, d'où viennent nos vêtements. Enfin, finalement, la cohérence, on peut l'avoir à partir de tous ces éléments-là. Ben, on s'inscrit vraiment dans leur fabrication, dans leur utilisation, et comme les produits de beauté, enfin le dentifrice, et voilà.
Alors cette démarche, c'est toujours le fruit d'un parcours, comme l'explique Sandrine, que vous avez aussi interviewée.
J'ai un peu lâché les études après avoir fait LEA. Donc, j'ai fait 2 ans à la fac. Et ensuite, j'ai travaillé dans un magasin, une grande marque de parfum. Grande marque de parfumerie, pour avoir un peu de sous. Du coup, je voulais me donner plus dans cette enseigne. Et je vendais du parfum et du maquillage. Donc j'adorais me mettre 1 heure de maquillage le matin. Et j'adorais sentir bon les grandes marques de parfum. Donc je les connaissais tous et tout ça. Et je vendais bien parce que j'adorais vendre, j'adorais le contact avec les gens. Et j'étais une bonne vendeuse. Donc c'était sympa. Mais je me posais beaucoup de questions quand même. Par exemple, le soir, je rentrais, j'avais super mal au foie, parce que les odeurs de parfum toute la journée pendant 8 heures, c'est pas très bon pour le corps, sachant que c'est pas des fleurs qu'on sent, c'est quand même des gros produits chimiques. Donc je me disais, c'est bizarre, je parle à ces gens, là je leur vends plein de trucs avec le grand sourire, en leur disant, voilà, c'est la rose de Damas, la lavande, nanana, et le muguet, et tout ça, c'est merveilleux. Mais en fait, non, à l'intérieur, il y a zéro muguet, zéro rose de Damas. Je vendais du rêve et du blabla. Et bah, je regrette un peu parce que j'ai fait croire à des gens qu'une crème à 250 euros, ça allait les faire rajeunir de 10 ans. Bah, c'est n'importe quoi. Mais vraiment, mais c'est du vent. Les gens, je les ai vus parce que je travaillais 7 ans dans cette industrie. Ils n'étaient pas plus jeunes au bout de 7 ans, quoi. Au contraire. Ils avaient juste perdu de l'argent, ils avaient des rides et ils étaient toujours malheureux parce qu'ils avaient des rides. Alors non, le but, c'est pas d'acheter une crème pour être heureux. Le but, c'est d'aller chercher plus loin, quoi. Un, chercher le bonheur en soi. Deux, comprendre que tu peux te mettre de boire un peu plus d'eau, avoir une meilleure hygiène de vie. On doit être fier de comme on est. Et ceux qui se cachent toujours derrière des tonnes de maquillage, parce qu'elles se cachent vraiment. Et du coup, bah, on se cache ça soi-même. Et c'est dommage, on se met un masque. Voilà, c'est pareil que se foutre un masque. Donc voilà, bah, tombez le masque et arrêtez de dépenser pour rien.
C'est pas du vent.
On a tous un grand cheminement à faire dans nos vies et on est en train d'inventer les uns et les autres le monde de demain.
Le magazine de l'environnement sur RFI.
Il n'y a rien de plus beau que d'aider l'humanité dans sa progression. Ça donne sens à notre vie, tout ça.
Nous sommes avec Muriel Barra aujourd'hui dans C'est pas du vent pour parler de sa nouvelle série de documentaires Un autre chemin qui dresse le portrait de personnes qui ont choisi de vivre en autonomie totale, c'est-à-dire qu'ils produisent leur énergie, leur alimentation, qu'ils ont une source d'eau. Tout cela demande beaucoup d'ingéniosité, comme on le voit avec l'exemple de Patrick et Brigitte Baronnet que vous êtes allés rencontrer près de Châteaubriant, c'est dans l'ouest de la France.
On paye plus un centime d'eau depuis 40 ans et plus un centime d'électricité depuis 20 ans. Voilà. Il y a aussi notre mode d'alimentation. Ce qui nous intéresse, nous, c'est surtout la santé. Et donc, on mange très peu de viande, très occasionnellement. On est autonome à 80% en légumes. Après, on achète quand même l'huile. On achète, par exemple, les raisins secs.
Les céréales.
Puis de temps en temps, on se fait un extra. Et puis, comme je ne suis pas vigneron et que j'aime bien le vin, on achète du vin. Progressivement, en s'affranchissant des besoins factices que notre société nous impose, il y a une évidence qui est apparue, c'est qu'on est des êtres humains sur une planète qui nous donne tout et qui nous donne l'abondance. L'eau, la terre, l'air, le vent, le feu, le soleil, etc. Et on s'est aperçu qu'on a marchandisé les éléments de la nature. Et donc, nous, on a décidé de ne pas passer par le système marchand qu'on est passé pour non pas exploiter, mais profiter de ce que la nature nous donne et éviter au maximum les produits artificiels. On revient à une vie très simple, finalement. Et pourquoi ça ne se généraliserait pas? Je ne comprends pas.
Ben oui, Muriel Barra, finalement, pourquoi tout le monde ne le fait pas?
Bah c'est, oui, en fait ça a l'air très simple quand on les voit vivre comme ça. Après ça demande vraiment d'avoir des convictions tellement profondes, tellement ancrées, et tout part de cette réflexion qui, de ce principe de sobriété heureuse, hein, la sobriété heureuse de Pierre Rabhi. Eux ils la vivent vraiment tous les jours, et à partir du moment où Patrick et Brigitte ont senti ça très profond en eux, bah, les choses se sont mises en place. Donc ce qui me plaît beaucoup dans leur démarche à eux, c'est qu'ils ont, ils ont mis ce principe de vie en place à une époque où c'est ça se pratiquait pas beaucoup. Et comme l'explique en plus leur fille, ben ils sont passés par des tas d'étapes que leurs enfants ont été un petit peu cobayes, en fait, finalement. Tout ça, les toilettes sèches, on ne connaissait pas. Les éoliennes, on n'avait encore jamais vu ça. Récupérer l'eau de pluie, ça se pratiquait pas. Donc leur histoire, eux, est vraiment très exemplaire, je trouve.
Vous dites, finalement, on n'a pas besoin de toute cette opulence. C'est un discours occidental aussi. C'est-à-dire que moi, je suis auditeur ou auditrice en Afrique. J'aspire à avoir ce mode de vie. Je vous entends dire ça, ça peut me choquer.
Ouais, mais je pense que c'est la réalité. Dans notre mode occidental, on est quand même allé vraiment trop loin, quoi. On est quand même dans une surconsommation qui est forcément choquante pour les pays qui n'ont pas accès à ça. Bien évidemment, on ne peut plus vivre comme ça. Bien évidemment, il va falloir trouver une autre manière de fonctionner. Et ces gens-là sont en train de nous montrer des voies pour changer tout ça.
Ça demande une véritable cure de désintoxication. C'est en tout cas ce que nous explique Virginie.
Tu vois, je ne sais pas quoi, cette frénésie d'illimité quand même, c'est l'illimité pour combler quoi? Pour combler le vide, quoi. Mais bon, moi, c'est cet illimité qui me donne le vertige un peu. Parce que ça, finalement, ça comble pas du vide, ça crée du vide encore, quoi. Plus de vide, parce que bon, Est-ce que le cerveau humain est capable d'analyser autant d'informations? On a toujours le choix quand même, quoi. C'est voilà, t'as le choix de te réaliser, quoi. Déjà, il faut un petit peu d'imagination, quand même. Après, c'est, tu te donnes les moyens et puis bah, tu peux y arriver. Tu veux rompre avec ça, toi, de te sevrer, quoi. Tu vois, parce que bon, c'est une drogue, leur truc, tu vois. Je sais pas, quoi. J'ai l'impression que les gens, ils sont drogués, quoi. Ils sont complètement camés, tu leur enlèves leur truc, ils sont en manque. Après, bon, bah, c'est dur quand t'arrêtes la cam, mais après, il y a une autre vie après.
C'est extrêmement inspirant, finalement, tous ces témoignages. Ça nous donne envie de faire un peu comme eux dans notre petite vie, chacun à un autre niveau. En même temps, il faut être très ingénieux, quoi. C'est pas à la portée de tout le monde.
Alors, je ne l'ai pas encore fait moi-même, hein. Pas encore, parce que peut-être j'aimerais bien le faire un jour, mais visiblement non, pas tant que ça en fait. Que ce soit Thibaut, que ce soit Olivier, enfin toutes les personnes qu'on a vues dans ces films-là n'avaient aucune connaissance. Patrick n'avait non plus aucune connaissance quand il a démarré. C'est juste qu'ils avaient vraiment envie d'expérimenter et de vivre de cette manière-là. Et puis ils ont compris, ils ont essayé et ça a marché. Il se trouve qu'on ne nous a pas appris tout ça à l'école. On ne nous a pas appris à faire pousser nos légumes à l'école. On ne nous a pas appris comment on pouvait récupérer l'énergie du soleil à l'école. On ne nous a pas appris que l'eau pouvait être gratuite à l'école. Et tous ces gens-là se réapproprient en fait ce que la nature nous offre. Et de la même manière qu'on a pu apprendre des choses très compliquées à l'école, ben, je ne vois pas pourquoi on ne serait pas capable d'apprendre à faire fonctionner une éolienne, à récupérer l'eau de notre toit. Si, on est tout à fait capable de ça, j'en suis certaine.
Finalement, ces gens, ils incarnent le changement qu'ils aimeraient voir. Je crois que vous le dites d'ailleurs dans le documentaire « À l'échelle du monde ».
Ben oui, c'est ça. C'est ça parce qu'à partir du moment où enfin, les calculs peuvent être très vite faits, hein, Thibaut, Patrick, enfin, tous ces personnages-là, leur empreinte, l'empreinte qu'ils vont laisser sur Terre, elle va être minime, quoi. Donc si tout le monde vivait comme eux, bien évidemment, ça change radicalement la face du monde. Alors peut-être tout le monde ne peut pas demain vivre comme eux, mais s'inspirer de leurs témoignages et comprendre ce qui les réjouit dans cette vie-là, ça oui, ça peut faire son chemin. Comprendre que peut-être qu'on nous a appris des bêtises en fait. Peut-être que quand on nous a dit quand on était petit bah, qu'il fallait gagner notre vie, peut-être que c'était des bêtises parce que en réfléchissant bien, notre vie elle est gagnée le jour où on est finalement. Donc il s'agit de la prendre en main, il s'agit de d'en profiter différemment. C'est toutes ces choses-là, je pense qu'il est urgent en fait de remettre en cause. Je pense sincèrement qu'on n'est pas sur Terre pour pousser des caddies. L'être humain, il a été fait pour autre chose que ça. Et moi, de le temps que j'ai pu passer avec ces personnages-là qui sont inspirants, ça m'a apporté beaucoup de joie. C'était réjouissant de voir de quelle manière on peut vivre plus simplement au contact de la nature et être heureux, vraiment, vraiment.
Quelles sont vos attentes là pour les épisodes à venir? Vous en avez plusieurs de programmés?
Alors en fait, les deux prochains épisodes sont là pour répondre à des questions qu'on a pu me poser après visionnage de des deux premiers, qui sont pour le premier, bon c'est sympa tout ce que vivent ces gens-là, mais on les a vus en été, en hiver, ça doit être bien différent. Donc là, pour preuve que ça peut aussi marcher, je vais bientôt partir au Canada, dans le nord du Canada, vivre dans un village, ils sont une quarantaine, un village autonome. Donc je vais partir fin février, c'est-à-dire dans des conditions climatiques qu'on imagine assez rudes. Voilà, donc ça sera pour le troisième épisode. Le quatrième viendra nous donner la preuve que l'autonomie peut aussi se pratiquer en mode urbain et pas seulement à la campagne.
Et vous avez une page Facebook?
Oui, il y a une page Facebook qui existe et qui s'appelle Un autre chemin, la série, voilà, sur laquelle vous pouvez retrouver bah, tous les personnages de la série, des extraits, des bandes annonces. Et puis on essaiera régulièrement de l'alimenter d'articles qu'on voit passer aussi sur toutes ces questions-là.
Et les liens seront évidemment sur la page de l'émission www.rfi.fr. Merci Muriel Barra de nous avoir reçus près de Lyon.
Merci Anne-Cécile d'être venue.
Vous écoutez C'est pas du vent sur RFI. Juste après une petite pause musicale, nous vous ferons découvrir une autre série diffusée sur YouTube cette fois. Clément Montfort explore la galaxie des collapsologues, ceux qui étudient l'effondrement de notre civilisation occidentale. Finalement, vous avez peut-être raison, il est urgent de devenir autonome.
magazine de l'environnement.
Et si notre civilisation s'effondrait, laquelle pensez-vous, l'occidentale, l'orientale? Avec la mondialisation, est-ce que nous n'en formons plus qu'une seule? Mais alors ce serait un effondrement général, mais ça veut dire quoi? Allez, pas de panique, c'est juste un sursaut de réalisme. Grâce à votre travail, Clément Montfort, bonjour.
Bonjour Anne-Cécile.
En 2015, Pablo Servigne et Raphaël Stevens publient « Comment tout peut s'effondrer ». Nous les avions d'ailleurs reçus dans « C'est pas du vent ». Et pour vous, on va dire quoi? C'est le déclic?
Ça a été le déclic, ça faisait déjà à peu près 6 ans que je travaillais sur l'écologie pour des documentaires pour France Télévisions. Mais là c'est vrai que quand j'ai vu, j'ai d'abord vu une interview de Pablo Servigne sur Mediapart. Et ensuite j'ai acheté le livre et je l'ai dévoré. Et ça a été aussi un effroi, pour tout vous dire. Un effroi parce que tout à coup il y avait une approche qui était un peu globale et transdisciplinaire qui venait révéler que pendant 5 ans en travaillant sur l'écologie, principalement sur l'agriculture, j'avais observé des faits scientifiques mais aussi des intuitions que les choses étaient plus graves que ce qu'on nous disait et puis qu'elles concernaient un petit peu tous les secteurs, les terres agricoles, les forêts, les océans, la biodiversité animale. Et là dans ce livre tout à coup je lisais quelque chose qui faisait une synthèse à 360 degrés de toutes les disciplines scientifiques et qui venait nous dire qu'en fait ces effondrements biologiques avaient lieu partout et qu'en plus de ça, deuxième effet qui se coule, on était face à un mur énergétique qui allait nous conduire vers un possible effondrement, c'est-à-dire plus de pétrole, en tout cas un pétrole trop cher qui viendrait enrayer notre civilisation et risquer un effondrement donc, global.
Et donc vous décidez de lancer Next, une web série en financement libre et indépendant, je précise, hein, que l'on peut voir donc, sur YouTube et sur Facebook. Votre ambition, c'est d'explorer du coup la galaxie de la collapsologie. Alors expliquez-nous.
Alors, ce terme collapsologie a été inventé par Pablo Servigne et Raphaël Stevens. C'est ce qu'ils appellent la science de l'effondrement, mais c'est plus que ça. C'est pas uniquement l'aspect scientifique qui, d'une part, est nécessaire et très intéressant, mais c'est aussi d'aborder toute la question émotionnelle. Donc, comment on fait pour vivre en tant que citoyen, en tant que personne, avec toutes ces informations anxiogènes, catastrophiques? Et moi, c'est, pour tout vous dire, c'est la partie qui m'a le plus intéressé. Tout à coup, je voyais des scientifiques, en l'occurrence Pablo et Raphaël, qui parlaient de leurs émotions et de la difficulté qu'ils ont eue ou qu'ils ont à travailler au quotidien avec ces informations. Et ça, ça a fait écho en moi, parce que moi aussi, depuis des années, je travaillais sur l'écologie et ça commençait à m'affecter profondément.
Bienvenue au club. Alors, je rappelle aux auditeurs que ça ne sert à rien d'éteindre tout de suite votre poste de radio. Hein. Mieux vaut savoir ce qui nous attend plutôt que de faire l'autruche. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous avez décidé de faire cette série, Clément Montfort.
Exactement. En fait, quand on est face à des informations comme ça qui viennent un peu perturber notre quotidien, finalement, parce qu'on se projette tous dans un avenir qu'on imagine, ces informations, elles peuvent nous déranger. Et moi, ce qui m'a intéressé, c'est de se dire, mais comment on intègre ces informations-là quand on est citoyen et qu'elles nous dérangent? Donc, j'ai fait un épisode, par exemple, sur la question du déni psychologique. Et j'ai interviewé un psychiatre parce que on traverse des processus quand on est face à des informations qui nous dérangent. Et l'écologie, c'est beaucoup d'informations sur la mort. Et la mort, c'est une chose à laquelle on n'a pas forcément envie de penser au quotidien.
Alors, pour démarrer la série, vous avez filmé donc le collapsologue Pablo Servigne, qui est l'invité d'une émission de radio dans laquelle il explique justement l'imminence de l'effondrement.
S'il n'y a plus d'énergie fossile, réfléchissez, qu'est-ce qui s'arrête? En fait, toutes nos civilisations industrielles. Parce qu'on se loge, on se chauffe, on s'habille, on se transporte, on mange grâce au pétrole. On mange quasiment tous du pétrole. Sans pétrole, qui ici est capable de se nourrir? Personne. Moi, si je n'ai pas de supermarché ou de carte de banque ou de voiture, en quelques jours, semaines, je meurs. Et sans pétrole, je meurs. Donc on a toute une... Voilà, c'est la civilisation thermo-industrielle qui s'effondre. Ça veut dire que les autres civilisations qui ne sont pas industrialisées pourront espérer survivre. Donc on en est là. Qu'est-ce qui va arriver? Il y a plusieurs échelles. En tout cas, tout aujourd'hui peut arriver. Je ne suis plus du tout dans les 2050, 2100. Aujourd'hui, un effondrement majeur des sociétés industrielles, pour moi, c'est très probable avant 2020 et sûr avant 2030.
Avant 2020
et sûr avant 2030. Donc voilà ma fourchette.
Le présentateur de l'émission de radio avant 2020, ça passe mal. Hein.
Il n'avait pas prévu ça pour ses vacances. Non.
C'est vrai que cette idée de l'imminence est quand même assez terrifiante.
C'est vrai que c'est aussi un des effets du livre, comment tout peut s'effondrer, c'est que tout à coup ça rapproche le curseur. Et en fait, la question du déni dont je parlais tout à l'heure, elle est essentielle parce que cette information-là qui dit qu'entre 2020 et 2030, ça risque de secouer sérieusement dans les sociétés industrialisées, on la connaît depuis 72 et le rapport du Club de Rome.
Alors on va y revenir, mais c'est vrai que Pablo Servigne parle de l'effondrement des sociétés industrielles. Est-ce que ça signifie que les pays moins développés, je pense notamment au continent africain, ont plus de chances de s'en sortir dans les décennies qui viennent ?
Alors c'est une question difficile parce que effectivement on a une variété très importante de niveaux d'industrialisation en Afrique et je suis pas expert du continent africain, mais en tout cas ce que je peux vous dire c'est que effectivement on aura probablement plus de résilience dans les territoires les moins industrialisés qui s'accommodent déjà comme ça, et il est certain que dans les pays qui importent énormément de nourriture, ça risque d'être un peu plus compliqué. Tous les pays qui dépendent énormément du pétrole, soit pour leur économie, soit pour fonctionner au quotidien, risquent d'avoir les mêmes problèmes que nous. Et inversement, ceux qui s'en servent moins auront plus de résilience. Et il y a aussi une question qui est essentielle, c'est les pays qui ont passé la révolution verte comme on l'a fait en France et en Europe, donc qui utilisent pour leur agriculture beaucoup d'engrais de pesticides qui sont des dérivés du phosphate, dont les ressources sont en train de se tarir. Donc tous ceux qui sont dans une agriculture très industrialisées vont avoir des problèmes, comme nous en France finalement.
Alors votre deuxième épisode est une rencontre avec un personnage, Anthony Brault, qui fait des conférences dans toute la France depuis 2008. Il a compilé pendant plus de 10 ans des recherches sur la dépendance justement de nos sociétés aux hydrocarbures dans son coin. Et au cours de ses rencontres avec le public, il rencontre lui-même un problème qu'il n'avait pas anticipé.
On est en septembre 2008, on est dans un bar du centre-ville de Rennes. J'ai une vingtaine de copains qui viennent voir cette toute première, donc c'est encore maladroit. Je suis pas vraiment à l'aise dans mon discours, mais en tout cas, le contenu est là, il est structuré. J'essaye aussi de dire, dans tout ça, il y a aussi du bon, et qu'il y a peut-être aussi de l'imaginaire positif, mais à ce moment-là, je suis tellement envahi, je suis tellement tout seul avec cette plus 10 ans que je pense que cette partie-là, elle n'est pas encore bien solide. Ce que ça provoque, c'est que j'ai une copine... J'ai l'émotion qui remonte, parce que j'ai une copine qui va pas endormir pendant plusieurs nuits, et je suis très mal avec ça, je suis très mal parce que je me sens coupable et je ne sais pas si j'ai le droit de provoquer de tels états émotionnels chez des gens proches, mais même pas proches. C'est pas juste que ce sont des gens proches, c'est que ça provoque ça, mon discours. Alors j'ai mis des mois à le rendre audible. Je vais essayer de l'adoucir, mais ça reste hyper violent dans une bonne dizaine, vingtaine, trentaine de dates. Je l'assume pas, au fur et à mesure j'adoucis le discours, j'enlève. Même un psy, quoi. Je veux dire, même si je vais voir un psy, si je lui raconte tout ça, peut-être il serait capable de mettre ça à distance, mais je veux dire, soit il me croirait pas, il me prendrait pour un fou, il essaierait de soigner ma folie. En tout cas, j'avais aussi peur de ça. Et puis, ça me semblait déconnecté. Je veux dire, moi, je me sens pas fou. Je sais que c'est, j'ai suffisamment de preuves pour savoir que c'est pas moi qui déconne, quoi. Donc, la psy, non, j'ai pas besoin d'aller me faire soigner. C'est pas moi qu'il faut soigner, c'est le monde, quoi.
Et oui, c'est une difficulté que connaissent, je pense, tous ceux qui travaillent sur ces sujets. C'est vrai que si on met bout à bout la disparition de la biodiversité, les changements climatiques, l'accroissement démographique, la fin de l'abondance des ressources dont nous dépendons, comme les énergies fossiles dont vous parliez à l'instant, etc. Dans C'est pas du vent, par exemple, ça fait près de 10 ans qu'on parle de ces sujets, et même si on essaye, nous aussi, hein, comme Anthony Brault, de donner envie, de dire c'est une chance aussi, la fin d'une civilisation, c'est le début d'une autre, etc. C'est malgré tout extrêmement anxiogène.
Et comment vous allez aujourd'hui ?
Eh bien écoutez, aujourd'hui, je vous vois là, c'est sympathique, ça va bien. Mais c'est vrai qu'avec François Porcheron, le réalisateur de l'émission, on a des phases où on est un peu déprimé, où ça va pas très bien. C'est vrai que moi, de janvier à juin l'année dernière, j'ai eu un moment où de grosses chutes de morale, quoi. Parce que c'est très difficile de garder le moral en parlant de ces sujets. Je partage tout à fait votre constat, même si c'est nécessaire d'informer et nécessaire de porter des solutions pour dire, malgré tout, c'est une chance de faire autrement. Et vous, c'est ce que vous démontrez aussi dans cette série.
Oui, exactement. Et puis, je vous remercie de partager avec nous cette faille ou cette fragilité que vous avez traversée pendant 6 mois, donc janvier à juin. En fait, c'est extrêmement difficile et je vais vous faire une petite confidence. C'est quelque chose que j'ai dû traverser assez récemment. En fait, au bout de 5 ans à bosser sur l'écologie, j'en suis arrivé à m'effondrer, moi aussi, à force d'étudier tout ça. Et c'était il y a à peu près 1 an. J'étais déjà en train de me dire qu'il fallait que je bosse sur l'effondrement. J'avais déjà lu tous ces bouquins. Tout va bien dans ma vie personnelle. Je suis en bonne santé, amoureux, tout va bien. Et pourtant, je me suis retrouvé à pleurer après une interview d'une heure où un scientifique m'expliquait que les sols étaient en train de mourir et que c'était très sérieux. Je m'y attendais pas, ça a été trop violent. Pourtant, on parlait de faits scientifiques. Hein. Et puis, quelques mois plus tard, donc il y a 1 an, en fait... J'ai fait une profonde dépression à cause de tout ça, à cause des questions d'effondrement. Je suis presque devenu fou, en fait, pour tout vous dire. Je suis allé voir un psychiatre pour vous dire que finalement, ces informations, elles sont terribles et elles nous travaillent à l'intérieur. Et il y a tout un courant de la psychologie qui s'appelle l'éco-psychologie, qui s'intéresse à l'accompagnement des gens qui travaillent sur l'écologie. Donc, si je fais le choix volontairement de vous parler de cette traversée un peu difficile que j'ai eue, c'est pas pour m'étaler, mais c'est pour dire aux gens que que c'est normal d'avoir du mal à vivre avec, que c'est pas la fin du monde et qu'on peut s'en remettre et qu'en fait il faut en parler parce qu'on est dans une société où on valorise la réussite, etc. Mais c'est pas un échec de traverser ça et ça nous rend plus forts. Il faut en parler.
Ouais, vous avez bien raison et je tairai d'ailleurs par respect le nom de tous ceux que je connais qui travaillent sur ces enjeux, qui sont passés par des phases psychologiques difficiles. Il y en a un paquet. Alors c'est pour ça que la plupart d'entre nous sont dans le déni. Hein. C'est un phénomène que vous avez décrypté d'ailleurs avec beaucoup d'humour. Dans le dernier épisode de votre série, le comédien, chanteur et humoriste Didier Super a accepté de jouer le rôle de celui qui est dans le déni absolu. Il le fait très bien.
Je vous remercie du fond du cœur.
Voilà, et c'est un déni qui est ponctué par les explications très sérieuses, elle, du psychiatre François Chauchot.
Salut beau-frère. Pour faire suite à nos discussions un peu houleuses pendant le réveillon, voici un petit cadeau dont je t'ai parlé.
Voici ce petit cadeau dont je t'ai parlé. À travers ce livre et aussi cette série, tu comprendras pourquoi plus rien ne nous empêchera d'aller dans le mur. Courage mon petit Didier, en découvrant tout ceci, tu risques de traverser des états un peu difficiles. Non mais n'importe quoi. Ton frère et moi te souhaitons bon courage, signé les babacools de merde. Mais putain, ça va, ça fait 2000 ans qu'on nous fait chier avec la fin du monde. C'est quoi ça? C'est Mad Max? Hein, c'est bon, j'ai vu les 4 Mad Max. Quatrième, c'est le meilleur.
Si quelque chose est trop menaçant, trop effondrant, ça peut constituer effectivement une défense.
Comment elle peut se rétablir vers un équilibre psychique?
Alors, en mobilisant d'autres défenses. Par exemple, la prise de distance, la réflexion sur le sujet, l'abord de connaissances sur un sujet, l'humour, la capacité aussi à changer de registre, c'est-à-dire à changer les idées, comme on dit, hein, enfin, essayer de passer à autre chose, de refouler plus ou moins l'information traumatisante pour se divertir.
Comment le déni chez une personne évolue dans le temps? Est-ce que c'est un processus qui travaille au fur et à mesure?
C'est un processus qui travaille un peu au fur et à mesure, qui peut soit se rigidifier, c'est-à-dire dire mais non, pas du tout, ça, c'est des faussetés, quoi, c'est n'importe quoi, ça ne va pas se produire comme ça, soit s'assouplir en disant, enfin ils exagèrent, mais et puis petit à petit se dire mais quand même, il y a des choses qui sont un peu inquiétantes.
Et face à ça, le temps est un facteur important?
Alors le temps et puis la réaction psychologique, hein, il y a parfois une réaction qui se fait en plusieurs temps, une phase de déni puis d'acceptation par exemple. Donc on peut refuser quelque chose puis ensuite petit à petit le réaliser. Si vous voulez, c'est une manière un peu de se défendre par rapport à l'intrusion d'une nouvelle qui serait trop brutale, quoi, trop violente. La réalité peut être très violente, donc faut essayer de faire avec.
Mais allez, faut profiter, putain. Hey, on ne sait pas combien de temps il nous reste à vivre, hein. Allez, faut s'amuser. Voilà, ta copine là, Sylvie, tu peux me filer son 06?
Alors quand tout d'un coup il y a une sorte de, comment dire, d'adéquation, de rencontre entre l'effondrement possible du monde et son effondrement intérieur, bon bah ça fait très peur, effectivement, pour le coup. C'est de la peur.
Alors, quand les camions s'arrêtent, le pays s'arrête. Alors, putain, après un jour, les pénuries alimentaires apparaissent. Les carburants ne seront plus facilement disponibles. Flambée des prix, longue file d'attente, putain. Et après 3 jours, c'est quoi ça? Les pénuries alimentaires s'aggraveront, en particulier si les consommateurs paniquent et constituent des réserves.
Et est-ce qu'on peut vivre sans espoir?
Alors, je pense que c'est un peu compliqué. Peut-être, mais ça doit pas être très rigolo.
Ah non, pas très rigolo. C'est un extrait de votre série Next, hein, Clément Montfort, que l'on peut trouver sous votre nom, Clément Montfort, sur YouTube. Alors c'est vrai que vivre sans espoir, c'est juste impossible, mais c'est pas du tout l'objet de votre série. Hein. Là,
ah non,
on entend bien, il y a de l'humour, au contraire.
Ouais,
c'est quoi? C'est de faire prendre conscience qu'il faut faire autrement ou que...
C'est déjà de se dire qu'il faut dépasser le déni. C'est un stade indispensable pour la survie psychique, pour pas devenir fou, pour pas rester dans la dépression. Mais c'est qu'un stade, c'est transitoire. C'est ce que explique le psychiatre pour conclure. Et c'est aussi de se dire qu'il faut accepter les choses telles qu'elles sont, donc accepter la situation écologique qu'on est en train de vivre et de pas rester les mains devant les yeux. Donc regarder les choses avec lucidité, mais garder espoir. Et ça peut paraître simple dit comme ça, mais ça prend un peu de temps. Et c'est aussi une façon de redonner de l'énergie, justement, pour aller vers les vrais aménagements, parce que j'aime pas parler de solutions non plus, qui sont des aménagements qu'on connaît, qui sont, par exemple, l'agroécologie pour l'agriculture ou la permaculture, relocaliser l'économie, etc. C'est des aménagements qu'on connaît aujourd'hui et qui ont une importance cruciale. Mais pour s'y intéresser, il faut dépasser les stades de déni parce que on a besoin, par exemple, de sortir des solutions technologiques, que ce soit la géo-ingénierie ou encore se dire que l'innovation et la croissance vont trouver des solutions à nos problèmes. Non, on peut pas résoudre les problèmes avec les mêmes logiques et les mêmes logiciels intellectuels que ceux qui les ont créés. Et moi, il y a une chose, par exemple, qui m'énerve, c'est qu'on parle de lutte contre le réchauffement climatique. Et c'est les éléments de langage qui étaient utilisés pour la COP21. Mais c'est simplement faux de dire ça comme ça. Le réchauffement climatique, c'est uniquement la conséquence d'une cause plus globale, qui est celle de l'industrialisation du monde. Mais c'est sûr que dit comme ça, tout de suite, ça montre des responsables que sont les grands industriels. Et tout de suite, c'est plus subversif et moins politiquement correct. Le réchauffement climatique n'est qu'une des conséquences du problème. Le problème est bien plus global parce que quand on parle de réchauffement climatique, on n'englobe pas, par exemple, l'effondrement de la biodiversité, qui est une catastrophe.
Des questions, des témoignages, des idées. Écrivez-nous à c'estpasduvent@rfi.fr.
Alors Clément Montfort, je rappelle que vous êtes là pour parler de votre série Next, qui est une web-série en financement libre et indépendant sur YouTube, que l'on trouve donc sous votre nom, Clément Montfort. Et alors dans l'épisode 5, vous donnez la parole à un homme politique, justement, parce qu'il y a un moment où il faut prendre ses responsabilités. Alors il s'agit d'Yves Cochet, ancien député écologiste français et européen, ancien ministre de l'Environnement dans le gouvernement de Lionel Jospin entre 2001 et 2002. Et il explique tout d'abord sa propre définition de l'effondrement.
Un effondrement, je l'entends global, à l'échelon donc mondial. Ça veut dire qu'aucun pays n'y échappe et que pendant plus d'un an, les services de base de la population, le boire, le manger, l'hébergement, l'électricité, la mobilité, la sécurité, l'enseignement, ne sont plus assurés à cette population par les services publics encadrés par la loi. Donc c'est ce qu'on appelle des États effondrés. Actuellement, par exemple, on peut dire que la Libye ou le Nigeria ou le Zimbabwe sont des États un peu effondrés. Mais là, il s'agit d'un effondrement global. Et donc on ne pourra plus avoir la possibilité, quand on est un pays, de faire appel à un autre pays à l'aide internationale. Il n'y aura plus d'aide internationale. C'est un effondrement donc, qu'on peut appeler aussi systémique, c'est-à-dire que c'est l'ensemble du système mondial, de la mondialisation, qui s'effondre, qui ne fonctionne plus du tout avec les protections et services de base dont je parlais.
Alors là, Clément Montfort, Yves Cochet nous parle d'un effondrement mondial.
Global, oui.
Global, c'est-à-dire que pays industrialisé ou pays en développement, tout le monde est touché.
Bah exactement, et puis disons que sa vision est assez difficile à entendre hein, parce qu'il ne va pas par quatre chemins.
Alors là, c'est juste, on vous a diffusé que quelques extraits, hein, évidemment, on n'allait pas diffuser la série dans son intégralité. C'est vrai que l'interview dure une vingtaine de minutes,
exactement,
je crois.
22 minutes.
Ça vaut le coup de prendre son temps pour l'écouter et regarder parce que ça secoue, mais c'est extrêmement intéressant et éclairant.
Et une des raisons qui fait que ça va nous concerner tous, qu'on soit dans un pays industrialisé ou non, c'est que finalement, bah, si des pays rencontrent des problèmes, les gens vont se mettre à migrer de manière massive, tout simplement. Et ils auront fui des frontières, ils vont juste se déplacer comme certains le font déjà.
Ça a déjà commencé.
La Syrie est un pays qui s'est effondré et dont les ressortissants... et on ferait pareil à leur place, se déplacent et migrent. J'aime pas le mot migrer, parce qu'on dirait des oiseaux, c'est des réfugiés, ils sont dans des pays effondrés, et on risque de traverser les mêmes choses. On sait pas quelles seront les destinations, parce que le changement climatique nous réserve bien des surprises, mais il y aura des zones plus attractives pour des raisons climatiques, et probablement qu'on ira vers ces pays-là.
Oui, sans doute
donc
en Europe d'ailleurs.
Tout le monde,
donc,
exactement.
Aujourd'hui, quand on parle en effet de migration, finalement, ce n'est que le début, a priori, d'une longue série. Et on le voit bien aussi quand on travaille sur ces enjeux d'effondrement. Et alors, ce qui est paradoxal, c'est que nous n'avons jamais eu accès à autant de connaissances. Hein. Vous rappelez certainement qu'en novembre dernier, il y a 15 000 scientifiques qui avaient lancé un appel contre la dégradation de l'environnement. 15 000 scientifiques de 184 pays, c'est énorme. Un appel d'une ampleur sans précédent sur l'analyse de 9 indicateurs mondiaux, etc. Et malgré cela, comme l'explique Yves Cochet dans votre série épisode 5, nous ne voulons pas y croire.
Il n'y a que 1% des gens comme moi, comme vous, comme peut-être quelques-uns ici, qui y croient. Et pourquoi on ne peut pas y croire? Eh bien parce que c'est ce que le philosophe Günther Anders appelait un phénomène supraliminaire. C'est-à-dire l'appareil cognitif humain depuis l'aube de l'humanité, par l'évolution, l'évolution au sens darwinien, n'a pas été habitué à affronter des catastrophes de cette grandeur-là. On a affronté des catastrophes, des guerres, depuis des milliers d'années, mais des catastrophes où c'est la survie de l'espèce en tant que telle qui est en jeu, on n'est pas équipé, on n'a pas les neurones branchés pour ça. Donc c'est un phénomène qui est inacceptable pour notre esprit, et c'est pour ça d'ailleurs que ça va arriver. Parce que jamais on n'arrivera collectivement, politiquement, globalement, à l'échelon de tous les États-nations, à prendre des mesures suffisantes à la hauteur de cette catastrophe. Jamais, on n'y arrivera pas. On est incapable de le faire parce que ça supposerait, par exemple, de diviser par 10 le PIB de la France en 2 ans. Eh bien, aucune personne, que ce soit les plus humbles parmi les plus humbles, que ce soit M. Macron ou d'autres, n'acceptera ça. Et donc, ça nous tombera sur le nez alors que les éléments objectifs de cette catastrophe sont déjà là, présents sous nos yeux.
Alors, ce qui est étonnant, Clément Montfort, dans ces propos d'Yves Cochet, c'est qu'il parle de croyance, y croire ou ne pas y croire. C'est la question que l'on peut se poser, par exemple, par rapport au sida. Je veux dire, tous les médecins disent que le sida existe, nous ne sommes pas médecins, nous les croyons. Quand les scientifiques du monde entier s'unissent pour nous dire « attention, ça va mal, ça s'effondre », on ne les croit pas.
C'est presque une question philosophique. C'est une question philosophique en fait. C'est que ça dépasse notre entendement. On est né dans cette civilisation. Vous comme moi, on n'a pas le même âge, mais on est né dans cette civilisation. Donc imaginez qu'elle puisse disparaître ou changer totalement, ça paraît impossible. Comment se figurer quelque chose qu'on n'a pas vécu finalement ? On a vécu dans une boîte et cette boîte va s'ouvrir. On ne sait pas ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire vivre sans pétrole, vivre sans électricité ou avec des coupures. On n'imagine pas. Et c'est en ça que l'imaginaire vient jouer un rôle extrêmement important. C'est que peut-être que des peuples ou des pays qui sont dans un environnement plus low-tech, en tout cas par opposition au high-tech, se figurent peut-être mieux ce que ça peut être de vivre sans pétrole ou sans électricité.
Mais si tout le monde aspire finalement au même confort de vie quotidienne qu'un Américain moyen, malheureusement encore aujourd'hui.
Oui, plus ou moins, ouais, effectivement. Mais c'est vrai que c'est dur de se dire qu'on aura moins de confort. En fait, on vit dans une illusion. Guy Debord parlait de la société du spectacle, mais en fait, on est bercé par une illusion d'abondance. Le supermarché, on est un exemple formidable. On va dans un supermarché, on a toute la nourriture du monde à portée de main. Mais ça, c'est une illusion. Et c'est...
Oui, parce qu'en parallèle, on a un jour d'autonomie alimentaire dans une ville comme Paris.
Oui, entre 1 et 3 jours, ouais. ce qui est hallucinant.
Alors du coup, à qui peut-on confier notre destin ? Aux politiques, peut-être ? Vous avez posé la question à Yves Cochet, qui a été donc ministre de l'Environnement dans le gouvernement Lionel Jospin entre 2001 et 2002. Ça vous fait sourire parce que c'est vrai que sa réponse est assez éloquente.
Quand j'y étais aux affaires, donc entre 2001 et 2002, avec Jospin, bon, moi j'en parlais à Jospin déjà de ces trucs-là, de la décroissance et de la catastrophe écologique. Lui n'était pas du tout écolo, c'était un grand homme d'État, mais ce qui l'intéressait, ce qui était important, comme M. Macron maintenant, c'est les relations internationales, l'économie, éventuellement un peu le social, mais voilà, les affaires. Eh bien non. L'écologique, il ne comprenait pas du tout que ça soit un problème politique. Et donc, je pense qu'un ministre de l'Environnement peut très peu, et moi j'ai fait très peu de choses, bon, d'une part ça n'a duré qu'un an, donc c'est évidemment pas beaucoup de temps, mais même, on est seul parmi, là c'était avec des copains socialistes ou communistes, mais ça serait des mecs de droite, peu importe, c'est pas une histoire de droite et de gauche, ils comprennent rien, les uns comme les autres, ils comprennent pas. Donc, on peut faire des tout petite amélioration ici ou là. Par exemple, introduire en effet le bio dans les cantines municipales. On peut dire il faudrait manger moins de viande. Alors bon, actuellement, on en parle un petit peu, mais ça prend des décennies et c'est pas du tout à la mesure, quoi. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est la grande histoire, la grande vision, le panorama complet. Alors on fait des bricoles, des détails, qui sont des petites fluctuations de l'histoire, qui regardez d'ailleurs la COP23, comme la COP22, comme la COP21 de Paris. Tout ça, c'est rien du tout. Pendant ce temps-là, les gaz à effet de serre continuent à augmenter, à la fois en volume d'émissions et en concentration. Donc tout ça n'est rien. Et par contre, les gens croient que c'est quelque chose. Mais non. Ou bien on fait les choses vraiment à la mesure de ce qu'il faut faire, ou bien alors c'est dérisoire.
Bon, bah alors on fait quoi, Clément Montfort ? On saute par la fenêtre tout de suite, là ?
Ok. Vous la première.
Attendez, je voudrais appeler d'abord mon mari et mes enfants.
Ouais. Mais non, c'est une vraie question. Qu'est-ce qu'on fait ?
Oui.
Ok, c'est une question difficile.
Non, mais bien sûr, on arrive à la fin de l'émission, on n'a pas le temps.
Non, mais qu'est-ce qu'on fait? Je pense que principalement, pour être sérieux, on en parle entre nous, parce que toutes les questions, tous les problèmes qu'on aura à résoudre, on devra les résoudre de manière collective et sociale. Donc en fait, il faut parler de l'effondrement entre nous, des impacts que ça pourra avoir, et se faire à l'idée que ça peut se produire, qu'on vit dans un luxe qui est artificiel. Et plus on en parlera, plus on aura des gens préparés, parce qu'il n'y a rien de pire qu'une population qui découvre quelque chose par surprise et qui est paniquée. Et c'est pour ça que je fais cette série, c'est pour que les gens en parlent avec eux, pour qu'ils aient des vidéos faciles à regarder et à transférer à leurs amis pour parler de toutes les problématiques, parce qu'il ne faut pas qu'on soit pris par surprise, quoi qu'ils nous attendent.
Et c'est extrêmement bien fait, ça s'appelle Next. Votre série, on la trouve à votre nom, Clément Montfort sur YouTube et sur Facebook. Et comme elle repose sur un financement indépendant, vous pouvez en profiter pour expliquer très rapidement comment ça marche. On peut financer la série?
Oui, sur le site tipeee.com, c'est les spectateurs, mais tout ça, toutes les informations sont dans les vidéos. Mais les spectateurs financent chaque épisode et c'est grâce à eux, et je souhaite les remercier chaleureusement, parce que c'est grâce à eux que la série existe. Elle est financée indépendamment et totalement grâce à eux, aux spectateurs.
Et tous les liens seront bien entendu sur la page de l'émission. Merci à François Porcheron pour la réalisation et la mise en onde et à vous pour votre fidélité. Vous pouvez réécouter l'émission et la partager grâce à notre application Pure Radio ou sur le site internet de RFI, rubrique émission. Prenez soin de vous et des vôtres. On se retrouve demain, même planète, même heure.